Merci beaucoup, docteur Guigouet, auteur, ce soir, c'est en cette qualité surtout que je vais m'adresser à vous, auteur de l'ouvrage « Puissance 237 pour une stratégie de puissance régionale 2025-2050 », préfacé par moi-même et par le docteur Evelyne Menge Akun, ici présente. L'honneur m'est choix de vous adresser d'abord mes salutations à chacune et à chacun d'entre vous, en même temps que mes remerciements pour cette activité qui est une activité importante. Alors, je voudrais proposer ma communication en trois phases. D'abord, je vais commencer par présenter le contenu de l'ouvrage, qui est un contenu très dense, très varié et pluridisciplinaire. Et ceci vous donne une idée justement de la notion de puissance qui est multi-approche. Ce n'est pas quelque chose qui part de manière, logique, d'un point A vers un point B, mais c'est quelque chose qui touche beaucoup de secteurs et donc une expertise variée et extrêmement pointue. Après cela, je passerai dans une deuxième séquence de mon propos vers, en réalité, ce qui nous sépare de ce que nous voulons atteindre. Si le Cameroun parle d'un projet de devenir une puissance africaine, mais non pas de manière secondaire, devenir la puissance africaine, la question que je me suis posée, c'est de savoir qu'est-ce qui nous sépare de ceux qui sont aujourd'hui la première puissance africaine. Et ainsi, posé, le problème va nous dérouler la longueur que nous avons à couvrir, la densité de l'effort à fournir, et bien sûr le sérieux et je dirais la concentration pour arriver à cet objectif. Et vous allez comprendre que ce n'est pas du tout un mince objectif du tout que de vouloir se placé au toit de l'Afrique. Alors, commençons par, comme il a dit tout à l'heure, les caractéristiques majeures de l'ouvrage, c'est que c'est un ouvrage très très volumineux, enfin, relativement parlant. Pour le commun des mortels, c'est effectivement un ouvrage volumineux. Mais de par sa nature, quand on regarde les encyclopédies, quand on regarde les dictionnaires, quand on regarde ce type de publication qui, à mon avis, rentre dans cette logique-ci, c'est-à-dire que ce sujet embrasse beaucoup de domaines différents. Donc c'est normal qu'il soit pluridisciplinaire et qu'il soit donc assez costaud comme ouvrage. Alors, il est fait de 37 chapitres sur 538 pages. Et divisé en, est-ce une coïncidence, nous parlons de 237, mais en 7 parties. Donc c'est peut-être une coïncidence, ça n'en est peut-être pas une. Je ne sais pas ce que l'auteur aura à dire là-dessus. Alors déjà, l'idée même de puissance est définie, parce qu'il y a une différence entre puissance et influence, en sciences politiques et en relations internationales. L'influence, c'est quand une partie, c'est-à-dire dans une relation, accepte de manière volontaire de faire quelque chose qu'elle n'aurait pas fait si elle n'avait pas eu une interaction avec vous. C'est ça qu'on appelle de l'influence. Maintenant, la puissance, cette chose est faite, mais elle est faite de manière plus forte, puisque derrière cela, il y a la possibilité de sanctions si vous ne le faites pas. Donc, en fait, ce n'est pas une puissance simplement de volonté, mais elle est accoudée. Elle est accoudée, j'allais dire, elle est accoudée, on peut dire ça, à un système qui est à la fois militaire et qui est à la fois de contraintes explicites ou implicites. Donc la puissance, c'est tout ça. Alors que l'influence, en fait, ce n'est pas explicite. Vous le faites, vous pensez le faire parce que vous avez accepté de le faire. Mais en fait, c'est ce qui apparaît. Donc, je voudrais vous dire que l'introduction, bien sûr, nous l'avons dit tout à l'heure, Le paradigme de développement ici est en réalité la perspective de l'auteur. Cette puissance n'est pas une puissance destructrice. Ce n'est pas pour casser. Ce n'est pas pour anéantir. Ce n'est pas pour détruire les autres. Mais c'est une puissance qui va vers la capacité de développer. Je crois que c'est bien ça. Dans la première partie, a trait à l'esprit de cette puissance, 237. 237, bien sûr, qui renvoie au Cameroun, qui est le code de téléphone, je pense bien, du Cameroun, parce que tout le monde n'est pas obligé de savoir ce que c'est. Il y a des Camerounais qui savent automatiquement ce que ça veut dire, mais peut-être des non-Camerounais qui se posent la question de savoir pourquoi ces trois chiffres. Et la vision est formulée, elle est aussi financée, de quelle façon cela est abordé. Les risques, les menaces et les hypothèques sont également discutés dans la première partie. La deuxième partie parle des fondements de la puissance. Cette puissance, elle est basée sur quoi? Et elle fournit donc l'intelligence collective de la puissance, les statistiques qui y ont trait, et des éléments tels que la démographie, l'économie, le rôle de la diaspora dans cette dynamique. Et bien sûr, il est important de chiffrer tout cela. Et ce qui n'est pas facile. Parce que justement, l'Afrique est un continent en mutation. L'Afrique est un continent qui est fluctuant. Donc aujourd'hui, ce qui avait trait, ou bien ce qui était une vérité il y a seulement 5 ans, ne l'est plus aujourd'hui. Et il est important de comprendre que les fondements sont des fondements qui sont la démographie de la puissance, l'économie et puissance, la diaspora et la puissance. Comment est-ce que toutes ces communautés, comment est-ce que toutes ces structures, comment est-ce que tous ces éléments sont en réalité repositionnés par rapport à la quête de la puissance? La troisième partie sont les ressorts de cette puissance. Et ces ressorts sont surtout en réalité sur les valeurs que sont ces puissances. Alors, c'est là qu'on parle de patriotisme, intégration et la notion de puissance. Et vous savez que si vous regardez des pays comme la Chine, ce qui marque surtout, c'est leur approche par rapport à leur pays. Je n'ai jamais entendu un Chinois dire quelques mots que ce soit contre son pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de récrimination, mais en fait, c'est une question d'attitude. Et de savoir ce qu'on veut. La régularisation de l'informel et la puissance. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'informel, c'est-à-dire à peu près 60 à 70% de nos économies, voguent dans ces eaux-là. Est-ce qu'on peut espérer atteindre la puissance en laissant du désordre dans ce domaine? Ou alors peut-on la récupérer toute cette vitalité, la redirectionner, la remettre vers une direction positive pour atteindre la puissance. L'état de droit, évidemment, est convoqué. Et pour ce qui est du Cameroun, comment opérationnaliser la puissance en termes de notre bilinguisme? Le bilinguisme permet effectivement une projection planétaire du Cameroun. Parce qu'en fait, l'anglais et le français sont les langues qu'on peut retrouver comme étant parlées partout dans le monde, pratiquement. Donc c'est important de prendre cela comme un élément de projection du Cameroun, notre bilinguisme, comme on le voit d'ailleurs aux Nations Unies et comme on le voit dans la plupart des organisations internationales. Maintenant, les traditions, c'est-à-dire tout ce qui est religion, croyance et spiritualité. On n'a pas vu un pays vraiment prendre possession d'un espace, si cette dimension n'est pas évoquée, n'est pas étudiée et n'est pas opérationnalisée. Donc ça, c'est important. Et on peut voir comment, dans une région comme l'Afrique centrale déjà, cette dimension est extrêmement importante. Nous rentrons dans la quatrième partie où sont discutés les moteurs de la puissance. Et qu'est-ce qu'on entend par moteur? C'est, naturellement, vous ne serez pas surpris, l'intelligence artificielle, par exemple, l'armée, l'industrie manufacturière, les énergies vertes, l'agriculture. Alors, quel lien y a-t-il entre l'armée et l'intelligence artificielle, par exemple? Sachons que si vous arrivez dans une université comme Harvard aux États-Unis, ou bien à Yale, bon, ce qu'on appelle les Ivy League, c'est-à-dire les premières universités aux États-Unis qui sont des universités d'abord privées, 60 à 70% de leurs programmes sont des commandes du Pentagone. Des commandes du Pentagone, c'est-à-dire du ministère de la Défense. Sachant que la puissance, la capacité de réflexion qui a été dégagée par les États-Unis, par exemple, le sont surtout grâce à l'approche qu'on appelle la recherche-défense. Et pour vous donner juste un exemple simple, quand vous prenez la plupart des grandes mutations technologiques d'aujourd'hui, elles viennent de cette recherche-défense. Exemple, l'infrarouge. L'infrarouge avait été utilisé dans la recherche-défense pour pouvoir tracer, retracer et traquer les mouvements des personnes et des biens dans le noir. C'est comme ça qu'on a créé l'infrarouge. Et ce n'est qu'après qu'on l'a médicalisé. On a utilisé ça pour maintenant une partie qui est noire, c'est-à-dire à l'intérieur, en termes de chirurgie interne. Vous prenez l'aviation. Quand vous prenez l'aviation, on n'arrive au supersonique et au subsonique qu'en termes de bombardier. En fait, la vitesse moyenne d'un appareil était accélérée pour qu'on ne puisse pas l'identifier et qu'on ne puisse pas, en fait, le détruire. C'est comme ça que les bombardiers sont devenus d'abord supersoniques et ensuite subsoniques, c'est-à-dire aller en dessous de la vitesse du son. Et ça, c'est éminemment militaire. Et ensuite, on a fait d'autres appareils pour qu'ils ne puissent pas être détectés par les radars. Ce n'est qu'en 1969, mesdames et messieurs, que cette technologie, au travers du Concorde, est devenue une technologie civile. Avec le Concorde, britannique et français, c'est là qu'on a donc eu le supersonique qui est devenu un avion civil de ligne. Ce n'était pas le cas. Dernier exemple, bien sûr, c'est, bien entendu, l'Internet. L'Internet est un projet éminemment militaire. Bon, c'est pour juste vous montrer que ce que nous disons ici, ou ce que le docteur Guy Gouet dit, ne relève pas de ces élucubrations. Non, ce sont des choses qui se font, qui se sont faites et qui ont marché ailleurs. Et donc, quand on dit l'intelligence artificielle, à côté, il y a armée et puissance, il y a industrie manufacturière. Je pense que c'est Dwight Eisenhower qui avait parlé justement du complexe industriello-militaire. Alors, tout ceci, il faut que nous puissions nous approprier ces données, ces fondamentaux, pour maintenant les appliquer à nous-mêmes et pour pouvoir avancer de façon sûre et de façon sereine. Alors, ces moteurs, je les ai un peu listés, mais il y a aussi l'agriculture de précision, qui bien sûr est une agriculture technologiquement orientée. Nous ne sommes plus au niveau de la houe à ce moment-là, et l'agriculture devient donc quelque chose de fondamental, car ventre affamé n'a point d'oreille. Et l'un des problèmes de l'Afrique, justement, c'est d'être associé à cette famine qui, aujourd'hui, est de moins en moins vraie. Je suis heureux de vous annoncer que le premier producteur de blé en Afrique, c'est l'Éthiopie, aujourd'hui. C'est l'Éthiopie qui, dans les années 1974, avait fait l'objet de toute une dynamique de dons et de pauvreté. Donc les choses changent, effectivement, et c'est pour ça que dans les moteurs de la puissance, on introduit tous ces aspects. La cinquième partie parle des leviers. Bon, évidemment, ces leviers, ce sont les outils qu'on utilise. La diplomatie, bien entendu. La diplomatie, c'est-à-dire c'est un appareil diplomatique qui, cette fois, doit être revu et corrigé parce que l'appareil diplomatique doit avoir un objectif. Aucun appareil diplomatique ne vogue comme ça sans objectif. Et quand on a un objectif, on va donc maintenant reprofiler l'appareil diplomatique avec les acteurs qu'il faut, avec la doctrine qu'il faut et avec le chronogramme qu'il faut. C'est comme ça un appareil diplomatique. Et ce n'est pas un appareil diplomatique qui va à volo et qui ne sait pas exactement la direction à prendre. Ici, c'est un objectif de puissance, Ça veut donc dire qu'il faut des acteurs qui sont profilés pour ça, avec des objectifs clairs et un chronogramme pour les atteindre le moment venu. Naturellement, les partis politiques. Je tiens à dire justement que nous ne sommes pas ici dans un exercice politique. Et ça, c'est très important. Ce projet est un projet neutre. C'est-à-dire, il n'est pas idéologiquement estampillé. Je crois que c'est bien ça. Et nous sommes maintenant dans une phase où tout ce qui est fait peut être analysé sous un prisme politique. Tel n'est pas le cas de cet ouvrage. C'est-à-dire que c'est à la disposition... Oui, mais je le dis, je le répète encore. Parce que justement, on peut se dire, ah mais attention, c'est quel parti qui vous a sponsorisé, etc. Ce n'est pas le cas. C'est un projet neutre. C'est un projet qui est à la disposition de tous les Camerounais et de toutes les Camerounaises et de toutes les structures qui ont comme ambition, justement, d'aider à atteindre ces objectifs pour l'ensemble du pays. Je crois que c'est important, parce que sinon on peut mal comprendre l'exercice que nous sommes en train de faire ici. Ça n'a rien à voir avec la politique politicienne. C'est très important. Alors, parmi les leviers, les partis politiques peuvent s'engouffrer dedans, bien sûr, parce que la mobilisation politique, la mobilisation idéologique et justement la vision d'un Cameroun fort, puissant, mais pas puissant pour écraser les autres, puissant pour justement pouvoir assouvir un certain nombre de buts qui soient des buts de développement et au service de la communauté. Ça, c'est très important. Les sondages, les notations et la puissance. Alors bien sûr, si vous n'avez pas un outil pour pouvoir appuyer ou bien pouvoir évaluer vos progrès par rapport à vos objectifs, vous n'arriverez jamais à conclure vers où vous allez et si vous êtes arrivé à votre objectif. Dans les médias, naturellement, joue un rôle très important. Je suis un peu mal à l'aise de parler devant le docteur parce que c'est elle qui... peut-être pas en parler mieux encore que moi. Je suis un adepte de chacun doit évoluer dans son domaine professionnel avec l'aisance qu'on lui connaît. Donc je pense qu'elle va parler un peu de ça. Les médias locaux, la société civile, ça aussi c'est important. C'est un pan important de la construction de cette puissance. La société civile, évidemment, elle est plurielle, elle est bigarrée. Et elle n'est pas toujours un domaine facile à maîtriser ou à contrôler. Parce que justement, elle est hétérogène. C'est le terme que je cherchais. Alors, dans tout ceci, quand on parle de la puissance, on va regarder quelles sont les ailes de cette puissance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut la porter? Qu'est-ce qui peut la faire s'envoler? Qu'est-ce qui peut la faire monter? Et donc, c'est la sixième partie qu'on appelle les ailes de la puissance. La culture est un domaine fondamental. Et surtout quand il s'agit de l'Afrique, c'est une culture qui, très souvent, a même été niée. Moi, je sors de Nairobi. J'étais à Nairobi hier. Nairobi, c'est la vallée du Rift. Nairobi, c'est la vallée du Rift, c'est-à-dire la dorsale entre l'Éthiopie et le Kenya, où se trouvent les plus vieux ossements humains jamais découvert. Il y a eu des gens qui sont venus nous dire que nous ne sommes pas encore entrés dans l'histoire, semble-t-il. Bon, ils ont eu cette audace-là. Bon, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas parler d'entrer dans l'histoire quand vous êtes le début de l'histoire. Il y a un problème à ce niveau-là. Dans la culture, par rapport à la puissance, c'est important. La sphère académique, naturellement. Alors, la responsabilité des universitaires, des académiciens, mais aussi des intellectuels, qui peuvent ne pas être des universitaires, qui peuvent ne pas être des diplômés du tout. Vous n'avez pas besoin d'un diplôme pour être un intellectuel. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit sur les modalités de changement de sa société pour la rendre meilleure. Pour moi, c'est ça un intellectuel. Vous pouvez être diplômé, comme vous pouvez ne pas être diplômé du tout. Donc, toutes ces personnes qui réfléchissent pour que les choses changent sont interpellées dans cette stratégie de puissance. C'est très important. Et naturellement, le sport et la gastronomie. Le sport, pourquoi? Comment se fait-il que l'URSS, et les États-Unis sont les pays qui, depuis plus de 70 ans, ont investi lourdement dans le domaine du sport. C'est parce qu'il y a un retour sur l'investissement qu'ils le font. Déjà, vous avez une notoriété spontanée, planétaire. Et la puissance, elle est aussi symbolique. Et le sport, c'est la bataille symbolique, c'est la guerre symbolique. Quand vous la gagnez, eh bien, vous épargnez quoi ? La mort, déjà, mais vous allez surtout engranger des bénéfices. Donc, il faut que le sport soit allié à une stratégie de puissance. Et de ce côté-là, au moins dans certains domaines, le Cameroun, quand même, peut se targuer d'avoir des pédigrés importants. La gastronomie et le système de puissance. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, prenons l'exemple tout simplement de la Chine. Il n'y a aucune ville importante au monde qui n'ait des restaurants chinois. Ça n'existe pas. Et cette présence se décline en plusieurs avantages. D'abord, une fois que vous avez conquis le palais de quelqu'un, il est plus apte à traiter avec vous dans d'autres domaines, tels que le commerce, tels que la culture. Et les Chinois, qu'est-ce qu'ils font? Après avoir mangé, ils vous envoient les acrobates. Vous allez donc au spectacle, vous applaudissez les acrobates. Pendant que vous applaudissez les acrobates, qu'est-ce qui arrive? Ce sont les commerçants avec des projets. Donc, et c'est ça la soft power. C'est ça la soft power. C'est-à-dire, vous êtes dans un contexte où le déploiement d'un savoir-faire particulier arrive à vous capter, à vous dompter et à vous convaincre. Donc, la gastronomie, certainement, fait partie de ces ailes qui vous portent vers votre objectif. L'environnement, naturellement, qui dit environnement, pour nous, en tout cas, nous possédons quand même le poumon, l'un des poumons du monde, c'est-à-dire l'Afrique équatoriale, l'Équateur. Nous sommes là-dedans et nous sommes justement en mesure de pouvoir discuter, de pouvoir argumenter et de pouvoir faire une théorie des échanges. Enfin, la septième et dernière partie, c'est l'activation de la puissance 237. Par cela, nous voulons dire, en tout cas, je parle pour l'auteur, la recherche des financements. Vous savez que là où le bât blesse, surtout pour l'Afrique, c'est au niveau des financements. Ce n'est pas que l'Afrique est pauvre, non. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'argent en Afrique, il y en a. Mais ce qui manque en Afrique, ce sont les priorités. C'est le processus de priorisation, je ne sais pas comment on dit, prioritizing en anglais. Eh bien, c'est ce processus qui nous fait défaut. Nous mettons notre argent ailleurs que dans la pensée, le savoir et la connaissance. Or, le véritable moteur du changement, c'est précisément cela. Nous sommes dans le superficiel, nous sommes dans le marginal, et on oublie que l'essentiel pour faire avancer une société, pour aller vers une cause et la gagner, c'est d'abord le savoir et la connaissance. Eh bien, la recherche de financement doit être actionné dans ce sens-là et dans cette direction. Il faut un plan d'action avec un chronogramme, avec des acteurs désignés, mais surtout des acteurs convaincus, des acteurs qui sont en réalité dévoués à la tâche. Donc, ils sont prêts à se sacrifier d'une façon ou d'une autre, même de manière symbolique, pour que la tâche réussisse et soit un succès. Il faut naturellement des indicateurs de suivi, ils ont l'habitude de le faire, et puis esquisser des scénarios possibles et des scénarios alternatifs au cas où le premier a eu des problèmes. Il faut avoir toujours une approche de plan B et voire même plan C. C'est ce qui s'appelle l'organisation stratégique. Et cela est important parce que ceux qui sont en face de vous ne vont pas s'asseoir pour vous applaudir. Il faut savoir qu'il y aura des résistances. Et c'est normal parce que plus vous montez vers le sommet, plus naturellement la résistance à votre projet grandit. Donc il faut vous préparer cela de façon préemptive et savoir qu'en cas de telle situation, voilà comment sera notre réponse. En cas de l'autre situation, voilà notre deuxième réponse. Il faut donc scénariser tout ceci et être prêt. Créer dans ce contexte un observatoire de la stratégie de la puissance. Ceci veut dire, en clair, qu'il ne faut plus s'excuser de vouloir chercher la puissance. Ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas un mot dont il faut avoir honte. Mais au contraire, il faut s'assurer qu'on a pris toutes les dispositions, qu'on a regardé toutes les éventualités et qu'on a esquissé tous les scénarios. Une fois qu'on l'a fait, ça demande de la préparation, ça demande de l'acharnement, ça demande de la vision et ça demande de la détermination. Donc ce n'est pas un petit projet auquel nous sommes invités ici. Et ce projet, comme il l'a dit au début, s'assoit sur trois grands principes qui sont l'utilisation de la hard power, donc qui est la puissance militaire, qui pendant plusieurs années avait été perçue comme étant la seule puissance valable, surtout à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand le livre « Politics Among Nations », écrit par Hans Morgenthau, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un Américain, Hans Morgenthau sort donc un livre en 1947 qui s'appelle « Politics Among Nations », qui est entre guillemets la Bible ou le Coran ou la Torah des réalistes. L'approche réaliste dit clairement que la puissance qui est respectée et qui est respectable, c'est la puissance militaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les États-Unis dominent le monde et que l'Europe est à terre, parce qu'il va falloir, bien sûr, le plan Marshall, qui, à partir du 5 juin 1947, sera lancé à partir de l'université de Harvard. Et ce n'est que 10 années plus tard que l'Europe va commencer à revenir dans le concert des nations de façon triomphale. Donc, la puissance militaire. Mais on se rend bien compte qu'il y a un problème avec la puissance militaire, parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le soft power, qui est une puissance d'abord de séduction, une puissance d'envoûtement, une puissance où on vous suit parce qu'on aime ce que vous faites, parce qu'on est convaincu par ce que vous faites et parce que vous êtes un exemple que les autres veulent répliquer. Donc cette soft power, c'est quoi ? C'est l'économie, c'est la technologie, c'est le savoir-faire, savoir-être. Et c'est cela qui entraîne donc, en fait, l'émulation. Cette soft power a bien sûr ses limites, mais elle a sa puissance révélée dans l'exemple chinois. Les Chinois n'ont tiré aucune balle nulle part pour devenir la première puissance commerciale du monde. Ils n'ont tiré aucune balle. Les seules balles qu'ils ont tirées, c'est leur force économique, leur force technologique pour pouvoir gagner des marchés, y compris aux États-Unis d'Amérique. Donc, ce n'est pas des élucubrations, ce dont nous sommes en train de parler. Si les Chinois peuvent le faire, ceux qui, sur le plan matériel, n'ont pratiquement rien par rapport à nous, combien de fois nous ? Et enfin, l'autre, c'est la smart power. Smart power, c'est smart en anglais, bien sûr, c'est l'intelligence, c'est être intelligent. C'est la combinaison de hard power et soft power. C'est ça qui vous donne la smart power. Comment agencer les deux ? C'est-à-dire le aigre doux pour arriver à ses objectifs. Et c'est ce qu'on voit maintenant, c'est la phase dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. On a vu ce que l'OTAN nous a fait en tuant Mohammed el-Kadhafi, par exemple, le 20 octobre 2011. Bon, ça c'était une façon d'utiliser la hard power pour éviter que la soft power ne se déploie en Afrique avec la possibilité pour l'Afrique de décoller finalement, économiquement, qui a donc été tuée dans l'œuf. En sachant qu'on tuait un acteur comme cela, on était sûr que l'Afrique allait encore reporter pour de nombreuses années, certainement, le décollage qu'elle avait amorcé. Bon, espérons qu'on pourra les contredire avec ce que nous venons de dire. C'est donc ainsi, mesdames, messieurs, que les 7 parties sont présentées par l'auteur. Et je dois dire qu'il y a une très belle postface qui s'intitule « La réalité du rêve », d'accord, qui vous sera tout à l'heure représenté certainement en termes de résumé par son auteur. Je n'aurai pas l'outrecuidance en sa présence de dire un mot dessus. Par contre, je voudrais terminer parce que je vous ai annoncé 2 parties, mais la deuxième partie sera bien plus courte que la première partie. Si je faisais ça dans un exercice académique, on allait me reprocher que les longueurs ne sont pas égales. Alors, pour moi, la deuxième et dernière partie, c'est où en sont les premiers aujourd'hui ? Et quelle est la distance qui nous sépare ? L'économie camerounaise, d'après Jeune Afrique, qui pour moi n'est pas la Bible, hein, mais bon, c'est eux qui font ce classement, est classée 15e économie africaine sur 55. Nous sommes 15e au moment où nous parlons. Donc l'exercice auquel je vous convie, c'est de regarder qu'est-ce qui nous sépare du premier et du deuxième, par exemple. Parce qu'on a en fait un bicéphalisme à la tête de l'Afrique en ce qui concerne l'évaluation. La première économie africaine, c'est le Nigeria. Première par sa quantité, première par son volume, première par sa démographie. Mais l'économie la plus industrialisée d'Afrique, c'est l'Afrique du Sud. C'est pour ça que je parle d'un bicéphalisme. Mais officiellement, classé numéro 1 des économies, c'est le Nigeria. Mais vous allez voir qu'il y a des problèmes avec ça quand même. Alors, nous sommes 15e, globalement parlant, et nous voulons passer de la 15e à la première place. Ce n'est pas une mince affaire. Le produit national brut du Nigeria est de 55 milliards de dollars US. 51 milliards de dollars US. D'accord ? Son PIB est de, je dis bien 551 milliards de dollars. Le PIB est de 508 milliards de dollars. Ça, c'est pour le Nigeria. Le produit national brut par tête d'habitant pour le Nigeria est de 2 500 dollars. Mais attention, ils sont 220 millions d'habitants. Donc vous voyez que c'est quand même quelque chose d'important. Si sur 220 millions d'habitants, vous arrivez quand même à atteindre 2 500 dollars par tête d'habitant, ce n'est pas mal. Leur taux de croissance est de 3,1%. Et l'approvisionnement en électricité est de 65%. C'est-à-dire des ménages. 65% des ménages au Nigeria ont de l'électricité chez eux. Et en termes d'eau, c'est 70% dans les zones urbaines et 40% dans les zones rurales. Nous sommes en train de donner les statistiques du Nigeria, première économie africaine. Leur réseau routier est composé de 195 000 km, soit seulement 25% goudronné. 195 000 km, dont 25% goudronné. Passons maintenant à notre deuxième challenger, qui est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, en termes de PNB, a 500 milliards de dollars de PNB. Vous voyez, avec le Nigeria. Oh, l'Afrique du Sud, c'est combien d'habitants, à peu près? Bon, ils sont, je pense, vers les 30 à 40 millions, je pense. Bon, il faut chercher dans votre Google, vous allez me dire. Eh bien, le PIB de l'Afrique du Sud, c'est 420 milliards de dollars. Mais seulement le produit national brut par tête d'habitant de l'Afrique du Sud est de 7 500 dollars comparé à 2 500 dollars pour le Nigeria. La particularité de l'Afrique du Sud, c'est la répartition. Il y en a qui sont très riches avec 20 000 dollars pour les blancs sud-africains en moyenne, alors que les noirs sont un peu moins que ça. Mais 7 500 dollars, ce n'est pas mal quand même. Leur taux de croissance, par contre, est un peu décevant. Il est de 0,3%. Ils sont 63 millions de Sud-Africains comparés aux 220 millions de Nigérians. L'approvisionnement en eau des ménages en Afrique du Sud est de 90%. L'approvisionnement en électricité des ménages en Afrique du Sud est de 90% également, ce qui correspond à des taux des pays du Nord. D'accord ? Mais la Libye avait 96%. La France, 92%. Eau et électricité. Voilà. Alors, le réseau routier de l'Afrique du Sud est effrayant. 750 000 km, dont 80% de routes goudronnées. En d'autres termes, la moitié de toutes les routes goudronnées du continent africain se retrouve dans un seul pays, l'Afrique du Sud. Mesdames, messieurs, ça vous donne une idée du travail qu'est en train de nous donner le docteur Gwet Guy. Ce n'est pas du tout un après-midi de pique-nique auquel nous sommes conviés. 750 000 km de route, dont 80% sont goudronnés. Ça, c'est l'Afrique du Sud. Qu'en est-il de notre cher et beau pays, le Cameroun? Produit national brut, 45 milliards de dollars. 45 milliards de dollars, soit 10 fois moins que l'Afrique du Sud. Produit PIB intérieur brut aussi à peu près 45 milliards de dollars. Bon, ce qui nous place toujours à la même distance de l'Afrique du Sud. Mais cependant, le produit national brut par tête d'habitant est de 1900 dollars quand même, ce qui est une progression par rapport à il y a une quinzaine d'années. Donc 1900 dollars. Et le taux de croissance de notre économie est supérieur aux deux premiers, c'est-à-dire 3,5%, alors que le Nigeria affiche 3,1% et l'Afrique du Sud 0,3%. Donc nous sommes à 3,5% pour l'année 2024. Alors, là où il y aura certainement des grincements dedans, je m'en excuse parce que je ne peux pas confectionner des statistiques. Je suis obligé de vous relayer les statistiques. C'est ça un chercheur hein, qui s'expose aussi à la grogne. Quand on parle d'eau et d'électricité au Cameroun, il faut faire très attention. Parce que c'est une façon de provoquer beaucoup de gens. Alors on dit ici, l'eau et l'électricité, 70%. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais je vous dis ce que j'ai lu. Eau 75%, électricité 70% des ménages les ont, chez eux. Je vous laisse responsable de votre propre évaluation. Réseau routier au Cameroun, 50 000 km, dont 30% sont goudronnés. Il n'y a aucune comparaison naturellement avec l'Afrique du Sud. Et même par rapport, le Nigeria ne peut être comparé à l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud est vraiment dans sa catégorie à elle seule. Quand on prend l'indice de développement humain, je termine par là, parce qu'il faut quand même des statistiques autres que simplement macroéconomiques, l'indice de développement humain qui a été créé par le professeur Sen, Amartya Sen et le PNUD, eh bien, on se rend compte que le premier à l'indice de développement humain, naturellement, c'est l'Afrique du Sud, avec 0,709, qui est 114e dans le monde. Ensuite, suivi du Cameroun, qui est 150e, avec 0,563, dont le Cameroun passe avant le Nigeria, lequel Nigeria est classé ici 3e, avec 0,539 et occupe la 161e place. Donc, il y a quand même des domaines où nous sommes quand même des bons challengers. Mesdames, messieurs, je pense que j'en ai terminé avec ma présentation. J'ai voulu vous montrer le contenu général du livre, d'une part, et puis dans une deuxième et courte articulation, la mettre dans la réalité macroéconomique d'aujourd'hui. Et de vous montrer justement le long chemin qui sépare l'atteinte de cet objectif avec là où nous nous trouvons aujourd'hui. Mais il y a des endroits où, naturellement, nous avons quand même notre mot à dire. Comme par exemple dans le sport, je crois que, comme les Nigériens d'ailleurs, nous avons beaucoup de choses à dire. Nous ne partons pas de rien. Et dans toute chose, la peur n'est pas bonne conseillère. Ce n'est pas parce que quelque chose est difficile qu'il faut s'abstenir de le faire. C'est parce que quelque chose est difficile qu'il faut précisément le faire. Et je termine avec une anecdote. Quand le 12 septembre 1962, John Fitzgerald Kennedy fait son discours qu'on appelle « The Moon Speech », c'est-à-dire le discours de la Lune, il se trouve à Rice University. Et là-bas, il prend la parole pour dire qu'avant la fin de la décennie, un Américain va marcher sur la Lune. Et à côté de lui se trouve le directeur général de la NASA qui pose ses deux mains sur sa tête en se demandant comment arriver là-bas alors que nous ne connaissons pas la méthode pour y arriver. Et comme s'il l'avait entendu, justement John Kennedy dit « Nous le ferons non pas parce que c'est facile, mais précisément parce que c'est difficile. » Et effectivement, en juin 1969, Neil Armstrong va arriver sur la Lune et va poser son pied en disant « Un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité. » Et ceci, c'est la force de la persuasion, de la vision, de la détermination qui fait bouger les montagnes. Rien n'est impossible à la personne qui est déterminée à faire quelque chose, qui en fait va bénéficier, non pas lui-même seulement, mais l'ensemble de la communauté nationale, et au-delà de cela, l'ensemble de la communauté africaine. L'Afrique aujourd'hui a toutes les étoiles qui sont alignées pour elle, il faut en bénéficier, et bénéficier de cette porte, de ce que j'appelle cette fenêtre de porte. Je répondrai de façon, je dirais, claire, que c'est l'utilisation des deux. C'est ce qu'on appelle le smart power. Smart power, c'est la conjonction, de la combinaison des deux, précisément. Alors, pourquoi les deux? Parce que aujourd'hui, ce qui vous fait devenir influent, c'est votre capacité de créer de la richesse, d'augmenter le savoir et la connaissance, et finalement d'imposer ces nouveaux produits au reste du monde. Parce que ceux qui sont aujourd'hui à l'aise, c'est pas parce qu'ils ont beaucoup de choses, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup d'idées. Les premières puissances commerciales aujourd'hui sont d'abord des puissances commerciales digitales. Donc ça veut donc dire qu'il y a eu une mutation en termes de dynamique d'imposition de sa puissance. Il faut aller dans ces domaines-là. Mais maintenant, si vous avez accumulé tout ça, on peut vous le reprendre rapidement et de façon brutale, si vous n'avez pas préparé aussi la défense de la conservation de tout ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas être naïf en nous disant « Allez au Conseil de sécurité, les deux bras dans les poches, sans armes nucléaires, vous allez aller siffloter là-bas. Tout ce que vous direz, personne ne va vous écouter. Parce que vous n'avez pas ce qui fait qu'on vous écoute. » Moi, je pense que les Africains doivent arrêter d'être naïfs. Allons là où il faut, comme tout le monde. Avec les armes qu'il faut, comme tout le monde. Cependant, ça ne doit pas être notre point de focal. Nous devons surtout travailler en multipliant la richesse. Parce que s'il y a des guerres aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est parce que le gâteau ne fait que rétrécir. La problématique centrale,